À travers les fenêtres et les arbres de la cour, je contemple la lune. La silhouette de Ying repasse devant mes yeux. Les mains sur le chambranle, le regard rempli d'une lumière trouble, il me remerciait d'être venu. Longtemps, le garçon s'est montré hautain et sauvage. Pas une seule fois, je ne l'ai cajolé sans redouter ses humeurs. Après l'aveu transmis par Mine, je ne crains plus son regard dédaigneux. Il est désormais un livre ouvert dont je composerai la grammaire. Pourquoi Ying a-t-il dit que Mine ne me méritait pas? Comment les deux hommes se sont-ils retrouvés face à face? Qu'est-ce qui a poussé Ying à se confesser soudain? Se sont-ils disputés? Se sont-ils battus? Mine dit qu'il veut m'épouser, mais je crains qu'il ne ressemble un jour à mon père, à mon beau-frère. La passion des hommes tarit plus vite que la beauté des femmes. Il m'a demandé de choisir. Comment pourrais-je ne plus revoir Ying, qui nourrit mon attirance pour Mine? Je ne tromperai pas Mine. Il m'a faite femme. C'est la reconnaissance qui me rend fidèle, non sa jalousie. Mon rapport avec Ying est plus subtil que les élans du corps. L'abstinence est la volupté de l'âme. Ying est mon enfant, mon frère, avec lequel tout attouchement est interdit. Cette pureté est le commencement d'une affection sans retenue et sans défense que je refuse à Mine. Sans Ying, mes étreintes avec son rival deviendraient vulgaires. Sans Mine, Ying n'existe plus. Par contraste avec la légèreté de mon amant, son caractère aride paraît grave et mystérieux. En choisissant l'un, je renonce à l'autre et je les perds tous deux. Dans une telle situation, au jeu de Go, on opte pour une troisième solution. Attaquer l'adversaire là où il s'y attend le moins. Demain, lorsque Mine viendra me chercher place des mille vents, je ferai semblant de ne pas l'apercevoir. La partie terminée, je compterai les pions. Je saluerai mon adversaire et l'accompagnerai du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je fixerai le damier d'un air épuisé. Je demanderai « Mine, qui est Tang ?» Il me jurera sa fidélité. Je feindrai la colère. Je trépignerai. Je soupirerai. J'ai si bien retenu les crises de perles de lune que je saurai jouer à la perfection. Pour me calmer, il m'entraînera chez Ying. J'accepterai ses baisers. Nos corps nus seront enroulés dans le drap comme deux pins ligotés par le lierre. Le lit sera un palanquin. Il nous conduira vers un autre monde. Un bruit assourdissant me tire de mes rêveries. Par la fenêtre, je discerne mes parents en pyjama au milieu de la cour. La cuisinière alertée sort de sa chambre une bougie à la main. « Éteignez !» lui ordonne mon père d'une voix sourde. « J'espère que ce n'est qu'un exercice militaire, » dit mère. Père soupire. De nouveau s'élèvent des explosions semblables aux pétards qui éclatent à la fête du printemps. Notre ville oppose à ce vacarme un silence têtu où l'on ne distingue aucun bruit de pas, aucun murmure, aucun pleur. Puis, tout rentre dans l'ordre d'une nuit étoilée. Mes parents retournent à leur chambre. La cuisinière ferme la porte. La lune immobile nous regarde. Ce matin, lorsque je me réveille, le soleil a déjà atteint le haut du pêcher. « Je vais place des mille vents !» L'inconnu m'attend déjà. Son visage, masqué d'une paire de lunettes, est figé, tout comme son corps. Nous campons nos soldats aux intersections. L'inconnu délimite ses zones sur les marges du damier avec une justesse et une économie prodigieuses. Le go reflète l'âme. La sienne est méticuleuse et froide. Ma générosité a le faire jouer en premier l'avantage. Il me devance dans l'occupation des postes stratégiques. Les lui disputer accroît mon retard. Je prends le risque. Appuyé sur ma base au nord-est, je m'élance à la conquête du centre. Il fait chaud. J'agite en vain mon éventail. Face à moi, mon adversaire m'impressionne. Exposé au soleil, il se laisse brûler sans manifester le moindre agacement. Le visage ruisselant de sueur, les mains sur les genoux, serrant son éventail fermé, il se tient absolument immobile. Je demande une trêve pour le déjeuner et note la position des pions sur une feuille. Nous convenons de nous retrouver après la pause. À la maison, le déjeuner est servi dans la grande salle dont on a fermé les volets pour conserver la fraîcheur du matin. Ma sœur, au retour du marché, nous déballe les rumeurs récoltées. Elle nous dit que la nuit précédente, l'armée japonaise a arrêté les membres de l'Union des Résistances qui préparaient en secret une insurrection. Les coups de feu entendus provenaient non d'un exercice, mais d'un véritable carnage. J'écoute son récit d'une oreille distraite. « Savez-vous où les émeutiers ont été arrêtés ? Tenez-vous bien, le propre fils du maire les réunissait dans une de ses maisons. Il paraît que dans la cave, on a retrouvé des fusils, des caisses de munitions. Comment ? Bien sûr, ils l'ont arrêté. » Le poulet que je mange perd son goût. Pour le faire passer, je me remplis la bouche de riz que je n'arrive pas à avaler. Ce matin, à l'aurore, intervient la cuisinière occupée à servir du thé, les Japonais ont arrêté le médecin Lee. Il fait partie du complot. Lentement, père prend la parole. J'ai bien connu le maire. Nos pères ont servi ensemble à la cour de l'impératrice douairière. Dans notre jeunesse, nous nous voyons souvent. En me serrant la main, il m'a dit que son frère aîné, proche conseiller de l'empereur de Mandchourie, lui avait obtenu un poste à la cour de la capitale nouvelle. Désormais, sa carrière est brisée. Je suis inquiet pour sa vie et l'avenir de sa famille. « Comment peux-tu avoir pitié de cet individu ?» lui réplique mère. « Il est jaloux de toi. Lorsqu'il était conseiller du maire, il a intrigué pour réduire tes heures d'enseignement. Je le soupçonne même d'avoir voulu interdire tes traductions. Je n'ai rien oublié. Maintenant, je me moque de ses malheurs. » J'ignorais que mes parents connaissaient le père de Ying. Leurs paroles m'anéantissent. Brusquement, ma sœur s'exclame. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?»« J'ai mal au ventre. »
« Tu as mauvaise mine. Va te coucher, » ordonne ma mère. « On t'apportera du thé. »
Allongée sur le lit, je couvre mon ventre de mes mains glacées. Où est Ying ? Mine est-il avec lui ? Je les vois paisibles, sans la moindre trace de révolte. Pourtant, mes amis m'ont trompée. Au moment où Mine m'enlaçait et m'entraînait dans la chambre, il marchait sur le secret de la cave. Lorsque Ying me parlait dans le jardin et qu'il espionnait jalousement Mine, il était attaché à son ami par un lien plus puissant que l'amour. Pourquoi m'ont-ils caché la vérité ? J'aurais partagé leur patriotisme, je serais allée en prison, je serais morte à leur côté. Pourquoi m'ont-ils séduite pour aussitôt m'exclure ? Ma sœur m'apporte une tasse de thé. Je me tourne vers l'intérieur du lit et fais semblant de dormir. Je revois notre première rencontre. Au marché, les résistants avaient donné l'assaut à la mairie. Bousculée par la foule, je tombais. Un garçon à la peau mate me tendit la main. Il avait le beau visage carré de l'aristocratie mandchoue. Puis Ying apparut, froid et hautain. Les deux organisateurs de la révolte venaient d'entrer dans ma vie. Je me retourne. Après plusieurs gorgées de thé, je retrouve mon calme. Quand Mine me parlait de la révolution, je croyais qu'il rêvait. Lorsqu'il disait que sa vie était dangereuse, je moquais son goût pour l'aventure. Je me rappelle Tang, l'étudiante invitée à l'anniversaire de Ying. C'est à présent que je saisis le sens de ses paroles. Fille d'esclave, elle a trouvé dans l'idéal communiste sa force et sa confiance. Tang a communiqué à Min, jeune seigneur terrien, le rêve de construire une société nouvelle où tous les hommes seraient égaux. C'est elle qui l'a poussée à prendre les armes et à s'engager dans l'union des résistances. Et Min a entraîné Ying. Tous les trois seront fusillés. Je me glisse dehors. Le tireur de pousse-pousse passe devant la maison de Ying. La rue est barrée par des sentinelles. Place des mille vents. Je dispose les pions selon la position relevée. Fixant le damier, comptant les intersections, je sombre dans l'abîme des mathématiques.